Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jocelyne Moussaoupondé. Examen d'État 2019, la publication des résultats a débuté ce mardi à Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement annonce un taux global de réussite de 72%. Au moins 2000 cas de rougeole, dont 62 décès recensés dans la province du Kwilu depuis le mois de mars. Selon le chef de division provinciale de la santé, les intrants manquent pour mener une campagne de riposte contre cette maladie. Le docteur Lorfred Achou, conseiller technique principal en santé reproductive, maternelle et néonatale à l'UNFPA, qui est notre invité ce soir. Il parlera de la campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales initiée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Bonsoir à tous. Publication des résultats de l'examen d'État édition 2018-2019 ce mardi 16 juillet ici à Kinshasa. Le ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a officiellement transmis ses résultats aux opérateurs des téléphonies mobiles chargés de les publier. Emery Okundji annonce un taux global de réussite de 72%. Cette publication commence par les résultats de la ville de Kinshasa. Pour les autres provinces, elle se fera selon l'ordre d'arrivée des items. Les précisions du ministre Emery Okundji au micro de Paul Matendo.
À ce jour, l'analyse des résultats présente la tendance suivante. Pour la ville-province de Kinshasa, le pourcentage global des réussites est de 72%. Quant aux autres provinces, les résultats seront publiés suivant l'ordre de retour de mal d'examen d'État. La publication tardive, ça il faut le reconnaître, des résultats de l'examen d'État, soit 18 jours, après la dernière journée, se justifie par des raisons suivantes. La première, c'est la prise en compte du fichier additionnel des candidats FPMA par le Centre national des corrections et c'est jusqu'à la dernière minute pour son harmonisation. Il y a aussi la réforme OADA intervenue au niveau de l'option commerciale et gestion, alignant 72 000 candidats qui ont présenté une preuve ouverte.
Rendons-nous au sud Kivu. Le réveil congolais pour le progrès, un mouvement citoyen basé dans cette province, appelle le président de la République à tenir sa promesse de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Cette demande est contenue dans une lettre ouverte que le RCP a adressée au chef de l'État. Suivez l'essentiel de cette correspondance avec le président national de ce mouvement, Stanislas Bafunyembaka, au micro de Michel Tirimwami.
Ça fait plus de 7 mois que le président de la République a été investi et que le peuple congolais est en train d'attendre ses gouvernements. Alors avec ce scénario actuel, nous pensons que ça risque de bloquer ou de retarder le gouvernement que nous attendons bientôt. Et nous demandons au président d'être très clairvoyant parce que ce politicien ne cherche que les intérêts personnels. Il ne travaille pas pour le peuple. Et nous soutenons son excellence monsieur le président, nous en tant que mouvement citoyen, le RCP, de tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il soit vigilant.
Pour ce qui est de la prime, qu'est-ce que vous voulez signifier à l'autorité nationale?
Quelle autorité nationale, son excellence monsieur le président, prenne ses dispositions? Lui-même l'a déclaré pendant sa campagne. Le parents savent qu'actuellement, au mois de septembre, ils ne vont pas payer la prime. Et alors, il ne reste que 2 mois. Au cas où, au mois de septembre encore, cette fameuse prime revienne, qu'est-ce qu'on va dire de son excellence monsieur le président qui a promis à la population de ne pas payer la prime?
Je l'ai dit en titre, plus de 2000 cas de rougeole sont recensés dans la province du Kwilu, dont 62 décès depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Information livrée ce mardi à Radio Okapi par le chef de division de la santé de cette province, Jean-Pierre Bassaké, déplore l'insuffisance des intrants pour démarrer la riposte à cette épidémie qui attaque selon lui toutes les 24 zones de santé de sa province. Jean-Pierre Bassaké est joint par Paul Matendo.
Et depuis cette 11e semaine jusqu'à maintenant 27e semaine, nous sommes déjà à 2378 cas de rougeole parsemés dans les 24 zones de santé. Donc aucune zone de santé n'est épargnée. Nous avons 62 cas de décès depuis qu'on a commencé. Pour la riposte, c'est depuis plus d'un mois que, avec les partenaires que nous avons en province, nous avons arrangé pour que nous puissions avoir de l'argent, des fonds, pour accompagner les prestataires à cet exercice. Malheureusement, l'intrant principal, qui est le vaccin, n'est pas disponible en quantité suffisante. Donc, pour votre information, ça fait plus près d'un mois. Nous avons 74 000 doses, mais la ville de Kikwit, avec ses deux zones de santé, il nous faut 94. Donc, en termes français-belges, 94 000. On a un gap de 20 000 doses qu'on recherche.
Parlons également de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le nord Kivu et en Ituri. C'est au cours d'une prochaine réunion convoquée en RDC par l'OMS que ses experts diront si oui ou non cette épidémie persistante devra être déclarée urgence mondiale. À la rencontre de haut niveau organisée hier lundi à Genève par l'OMS et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, l'ONU a identifié deux goulots d'étranglement dans la riposte contre cette épidémie, l'insécurité et le manque de financement. D'autres détails avec Honoré.
La réunion de Genève avait pour objectif de faire le point sur la réponse coordonnée et mobiliser davantage de soutien aux efforts déployés par le gouvernement congolais pour vaincre cette maladie mortelle Ebola. L'argent, le nerf de la guerre, le chef de OCHA l'a encore rappelé aux États membres présents à Genève. Si nous n'obtenons pas immédiatement davantage de ressources financières, il ne sera pas possible de mettre fin à l'épidémie, a prévenu M. Mark Locke. L'autre dimension dans la riposte à cette épidémie est d'ordre sécuritaire. Le docteur Tedros, directeur général de l'OMS, l'a souligné. 198 attaques subies depuis le début de l'année par l'opération de riposte avec 7 morts et 58 blessés. Il faudra donc que ces attaques cessent, a insisté le chef de l'OMS. Par ailleurs, en dehors de la contrainte sécuritaire, le ministre congolais de la Santé, Dr Oli Ilunga, a évoqué à Genève d'autres facteurs de risque de l'épidémie en cours dans l'est du pays, notamment la densité et la grande mobilité de la population et l'instrumentalisation de l'épidémie par certains acteurs politique pendant la période électorale.
Au Nord Kivu, une vingtaine de femmes de Maleki à l'ouest d'Oicha vivent dans des conditions difficiles après l'incursion et le pillage systématique de plusieurs maisons par l'ADF il y a 5 jours dans cette localité du territoire de Beni. Selon la société civile locale, ces femmes n'ont plus de vêtements. Son secrétaire Javier Kasairio lance un appel pour une assistance à ces femmes. Il est au téléphone de Martial Papiumkeba.
C'était vers 21h du vendredi. Le ZADF a fait incursion à Maleki. Maleki, c'est une localité située dans le groupement Batangimbaou, à l'ouest de la commune rurale de Ouicha. Pendant l'incursion de ces ZADF, ils ont dévalisé aux environs de 20 maisons. De toutes ces maisons-là, ils ont tué tous les biens de ménage. Alors, ceux qui ont été tellement victimes, ce sont les femmes. Toutes les femmes et les filles de cette zone-là, on a pris tous les habits de toutes ces femmes-là. Donc, jusqu'à présent, plus de 28 femmes sont vraiment dans la rue, sans aucun habit. C'est pourquoi nous lançons l'appel aux humanitaires, au gouvernement, au ministère du Genre, au ministère des Affaires Sociales et les autres partenaires de venir aux recours de cette paisible population, surtout les femmes. Nous pensons que s'ils viennent en aide à ces femmes, ça pourra nous aider pour leur résilience.
En justice, les prévenus Tcheka et son principal co-accusé, Ndolé, sont placés sous mesure disciplinaire par l'administration pénitentiaire de la prison de Goma. Ils sont notamment privés de visites et des communications téléphoniques. Cette décision est consécutive à l'incident survenu la semaine dernière dans la cellule où sont détenus ces deux prévenus. Éclairage de Gabriel Omenia.
Parmi ces mesures, il y a entre autres la privation des visites, pas de communication téléphonique et les confinements dans leur cellule jusqu'à nouvel ordre, a précisé un des responsables de l'administration pénitentiaire de la prison, qui est parti de l'incident survenu la semaine dernière dans la cellule où sont actuellement détenus Ntabo Ntabe Risheka et l'un de ses coaccusés Ndole. Les sources pénitentiaires affirment que Tcheka a séquestré pendant 4 jours dans sa cellule sa femme et ses 4 enfants. Il exigeait leur prise en charge par la MONUSCO comme convenu lors de sa reddition en 2017, convention que la MONUSCO n'a toujours pas reconnue depuis le début de l'audience. Il aurait fallu l'intervention du commandant de la 34e région militaire pour extraire sa famille de la cellule de détention de Tcheka. Rappelons que l'audience de ce lundi a été suspendue suite à l'état de santé du prévenu Tcheka. Selon son médecin traitant, sa tension artérielle est actuellement très élevée et que son taux de glycémie est en baisse. Son avocat Maître Olenga plaide pour que son client soit soumis à un régime alimentaire équilibré conformément à son état de santé.
L'invité.
La campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales initiée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA se poursuit à Kindu dans le Maniema. Pour en parler, nous recevons le docteur Lawfred Achou, conseiller technique principal en santé reproductive, maternelle et néonatale à l'UNFPA. Il s'entretient avec Christian Mapendano.
Lawfred Achou, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on peut expliquer les fistules en des termes simples? Comment les comprendre?
Généralement, le corps humain est fait de sorte à ce que pour la maman, le bébé est dans l'utérus, un peu au milieu de la vessie qui porte les urines devant et en arrière le rectum qui fait descendre les matières fécales. Donc, pendant l'accouchement, si le travail est très prolongé, la tête du bébé, en cherchant à descendre, est en même temps en train de pousser donc derrière la vessie ou en train de pousser devant le rectum. Ce qui fait donc que si ce travail d'accouchement n'est pas bien dirigé, à la longue, on va finir avec un traumatisme, donc un trou ou une communication entre la vessie et la voie génitale ou entre le rectum et la voie génitale. Ce qui fait donc que les urines peuvent se mettre à couler à travers la voie génitale. Donc la maman ne peut plus contrôler l'écoulement des urines ou encore les matières fécales peuvent se mettre aussi à passer à travers la voie génitale. Donc elle se retrouve souvent avec beaucoup d'odeur. C'est comme ça donc en termes simples qu'on peut décrire la fistule obstétricale.
Est-ce qu'on peut dire que la fistule obstétricale, pour le cas que vous avez opéré ici, est-ce que c'est dû à un mauvais accompagnement lors de l'accouchement ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base?
Merci beaucoup pour cette question parce que nous disons toujours que la fistule obstétricale, c'est l'échec de travail de personnel de santé si jamais la maman était arrivée à l'hôpital à temps. Nous disons donc que c'est l'échec de qualité de service, l'échec de prise en charge adéquate des mamans lors de travail d'accouchement. Effectivement, c'est ça. Pour prévenir les fistules, il faudrait que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettons accent, que le travail soit bien surveillé pour qu'on puisse détecter si une maman est en train d'arriver à un travail prolongé qui va maintenant laisser donc ces complications dont je viens de décrire. Donc généralement, c'est un échec de service.
Pour le cas ici, combien de femmes sont visées au courant de la campagne en cours?
Pour cette campagne, on a prévu opérer 50. Mais si, pendant la période qui est donnée, tous les cas qui arrivent ici, ça dépasse 50, on va les opérer. Donc la campagne continue jusqu'au 20 juin.
UNFPA a dans ses attributions la santé de la reproduction. Est-ce qu'à ce niveau, il y a quelque chose que vous faites dans ce sens pour sensibiliser effectivement les personnels soignants, les sages-femmes, les accoucheuses, afin qu'on puisse éviter des cas de fistules pour les années à venir?
Merci beaucoup pour cette question. Il y a principalement deux niveaux sur lesquels nous devons beaucoup investir si nous voulons lutter contre la fistule obstétricale. D'abord au niveau de la communauté, donc c'est par rapport à la sensibilisation, donner des messages qui vont amener les communautés, surtout les mamans, à regagner la confiance avec le système de santé parce que on a également constaté que la communauté, après avoir perdu confiance dans le système de santé, n'arrive pas à accéder. Parfois aussi, ils ont un peu d'autres handicaps pour utiliser les services. Donc, travailler au niveau de communauté pour que les gens sachent que dès qu'une maman entre en travail, elle doit aller à l'hôpital. On vient maintenant au niveau des services pour que les services soient les services de qualité. Et là-dedans, nous sommes en train de travailler pour que les sages-femmes soient en mesure de détecter rapidement les complications, pour aussi que les sages-femmes puissent donner des soins beaucoup plus humanisés, tenir compte donc de beaucoup d'autres facteurs, parce que la démotivation, ainsi de suite, les sages-femmes n'arrivent donc pas à bien s'occuper des mamans. Donc, on doit travailler surtout sur ces deux fronts, au niveau communautaire et au niveau des formations sanitaires pour assurer la qualité et les soins humanisés.
Lawfred Achou, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Radio Okapi.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.